la musique.
Caravanana maximum. Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du
sale, 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 sale.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive le soleil.
Vive les oreilles.
Libre.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde, à Pavie. Radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aux musiques expérimentales, aux musiques singulières et autres formes de création curieuses. Aujourd'hui, nous recevons Sophie Bernadeau. Bonjour Sophie.
Merci de ne pas avoir croché sur mon nom de famille.
Mais comment veux-tu qu'on croche? Qu'aurais-je pu dire?
La génération, les quarantenaires en général, ont beaucoup regardé Zorro, malheureusement pour moi.
Sophie Bernadeau, donc, qui joue du basson.
Voilà.
Et pas du...
Du hautbois.
Voilà. Bon, alors, on vient d'écouter Ikui Doki.
C'est ça.
Pema
Yangtze.
Oh, merci. Merci.
C'est une ville aussi qui...
On reparlera de cette formation plus tard, mais avant tout, je vais te poser la question... Un peu bateau, traditionnel, pourrais-tu nous parler de ta formation musicale? Et j'aimerais savoir aussi si tu as commencé avec le basson.
Alors j'ai commencé, ma mère jouait du piano et je l'ai beaucoup écouté et j'ai eu envie de faire du piano. Et voilà, j'étais dans une petite école de musique au piano et puis je suis rentrée au conservatoire assez tardivement et je voulais faire concertiste. Et en fait, le prof de piano qui était très droit, rigide, m'a dit « mais tu ne pourras jamais faire concertiste en piano ». Donc il m'a un peu détruit mon rêve. Et en fait, j'avais le choix entre plein d'instruments. Et le basson, ce qui est fou, c'est que je me retrouvais dans un couloir, au bout du couloir, et le prof de basson jouait le boléro de Ravel. Et je suis arrivée en fait, c'était un charmeur de serpent. Je suis arrivée comme un serpent jusqu'à la porte. Et là, j'ai vu cet instrument et j'ai eu un coup de foudre. Donc, directement, j'ai commencé l'orchestre mon histoire d'amour avec le basson.
Donc, formation classique ?
Voilà. J'imagine, j'étais au CNSM en musique classique. Et ouais. Là-bas, j'ai rencontré, comme j'avais un peu de mal à m'adapter à cet univers très compétitif de musique classique, je me suis entourée de tous les jazzmen qui étaient dans ma génération, découvrir l'improvisation avec eux.
Ouais. Alors peut-être tu peux nous présenter l'instrument, nous en dire quelques mots.
Alors, je peux vous dire que le basson est l'instrument qui se rapproche le plus de la baleine à bosse. J'ai une amie avec qui je collabore qui s'appelle Aline Pénito qui m'a contactée récemment pour travailler sur son propre projet qui est la réponse de la baleine à bosse. Et quand elle m'a contactée, elle m'a dit voilà, je suis électroacousticienne et je travaille sur un projet avec un chercheur sur les baleines à bosse. Et tu n'imagineras pas, mais l'instrument qui s'en rapproche le plus, c'est le basson. Donc je l'ai fait répéter à peu près 10 fois. Voilà, maintenant je suis partie avec elle sur un projet d'interface pour communiquer avec les baleines. Et on part à la réunion sur les bateaux, c'est en septembre. Voilà.
Bonjour à toutes les baleines qui nous écoutent.
Voilà, c'est ça.
Alors, qu'est-ce qui t'a attiré dans cet instrument? Est-ce que moi j'imagine... Ah, j'adore moi, le basson par exemple. Et est-ce que c'est l'aspect des graves ou...
Alors... Par exemple, cet instrument en fait était extrêmement utilisé période médiévale, renaissance et baroque pour accompagner les voix. C'est un instrument qui se rapproche le plus des voix en fait. Mmh. Il doublait les voix, les chœurs, les ténors, les médiums, les mezzos pardon. Et donc il a une beauté et une douceur incroyable. J'adore. Et j'aime beaucoup quand il est utilisé, par exemple, par Ravel et Debussy, dans les aigus, plus que Pierre et le Loup dans les graves, où il a un petit côté burlesque qui me plaît pas tant que ça, en fait. Voilà. Le côté flûte en bois, flûte indienne, c'est ce vers quoi j'ai envie de tendre, en fait.
Et est-ce que tu as des références, par exemple, dans le rock? Moi, je connais plusieurs bassonistes, Lindsay Cooper de Henrico, Michel Berkmans de Univers Zéro, et bien sûr, Bronislav Schmitt de Sledier, J.V. Sledier.
Les deux derniers, je ne les connais pas. Par contre, Lindsay Cooper, je l'ai pas mal écouté, en fait. Et ça m'a beaucoup inspiré. Il y a une forme assez contemporaine dans son improvisation qui me parle beaucoup. Par contre, les deux autres, je prendrai les références parce que...
Oui, oui.
Voilà, ça m'inspirait.
Ah ouais, super, super groupe. comment t'es-tu orienté? Parce que tu parles de ta formation classique, du jazz, mais comment tu t'orientes vers les musiques singulières, allez, je sais pas comment dire, vers les musiques un peu étranges, bizarres, hors normes?
En fait, moi, je suis plutôt extrêmement curieuse. Et donc, en fait, c'est un peu comme un tube à essai. On essaie des mélanges et on voit si ça fonctionne ou pas. Donc, moi, j'ai un énorme chemin à accomplir et qui est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille voir si le timbre du basson fonctionne dans différents univers. J'avais rencontré Patrick Moutal au CNSM, qui était professeur de musique indienne, incroyable musicien. La musique traditionnelle, je vois vraiment un espace pour le basson. Par exemple, j'ai fait pas mal quand j'avais 27 ans et j'ai rencontré énormément de flamenquistes. Donc j'étais dans deux groupes de flamenco. J'ai aussi fait des fusions avec musique africaine. Alors là, je ne te parle pas de rock, hein, mais par contre, j'ai un projet qui s'appelle LA from Paris, qui est rap expérimental. Ah oui. Et dans ce projet-là, je chante, je fais du rap, je fais du scratch vocal et je joue du basson avec des pédales d'effet.
Ah oui,
donc j'expérimente et voilà, la porte est grande ouverte pour expérimenter.
Alors, j'ai fait des recherches sur le basson sur internet et j'ai vu qu'il y avait un bassiste hollandais, je ne sais pas si tu le connais, Bram van Sambeek. Il a créé un événement Sauvons le basson, estimant que l'instrument était en voie de disparition.
Ah, donc... bassoniste, je crois que je l'ai vu en train de faire du vélo sur un basson.
C'est ça, exactement. Voilà. Et je ne sais pas si c'est un coup de pub qui se fait lui-même ou est-ce qu'il y a réellement un problème avec cet instrument qui serait sous-employé, méconnu, ou, tu vois ce que je veux dire.
J'adore.
Sans parler de mépris, tu vois.
Non, mais c'est, en fait, ça, ce n'est pas du tout mon univers, mon objectif. Le basson peut s'éteindre, ça ne sera pas un problème pour moi, parce que c'est juste un médium pour faire de la musique au final. Et c'est rigolo parce que moi je me suis retrouvée dans une espèce de difficulté au CNSM. C'était la période où les bassons français étaient en voie de disparition parce que dans les organes symphoniques ils utilisent maintenant pratiquement que des bassons allemands. Et ça n'avait... Je m'en fiche royalement en fait. Au final, l'objectif c'est faire de la musique et voilà, sauvegarder un instrument. Voilà, aucun intérêt.
Qu'est-ce que tu appelles basson français, basson allemand?
En fait, c'est deux factures différentes.
L'instrument
et le... Pardon?
L'instrument ou...
Oui, en fait, le basson allemand est la version perfectionnée du basson français. Il y a plus de clétage, plus de facilité à obtenir les aigus, par exemple.
Ah oui, d'accord.
Mais au final, voilà, c'est pas ça le plus important, je crois.
Ouais. Donc toi, tu joues du basson français?
Allemand.
Allemand.
Pour ça, j'habitais en Allemagne.
Ah ben oui, ouais. D'accord. Bon, je propose qu'on écoute un extrait de ton solo, Lila Bazooka, on en reparlera après. Ça s'appelle Arashiyama.
Arashiyama.
Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est le nom d'un temple bouddhiste qui se trouve à côté de Kyoto, au bord d'un magnifique lac, perdu dans la forêt, et des arbres centenaires, et un lieu de toute beauté et plein de sérénité. Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, l'émission Les Oreilles Libres, consacrée à Sophie Bernadeau. Est-ce que tu peux nous parler de ton solo, dans lequel tu n'es pas seule ? Tu n'es pas tout à fait seule, c'est intéressant.
En fait, je travaille en collaboration avec Céline Granger, qui est ingénieure du son, et sur ce solo, elle fait aussi du traitement de son en temps réel. On a obtenu une bourse de l'Institut français, on est parti en avril, un mois. Pour rencontrer notamment des joueurs de shaw, le shaw c'est un instrument, c'est un orgue à bouche, magnifique. Voilà, l'objectif c'était de se diriger vers ces musiques traditionnelles. Et on a fait un habillage sonore qui est constitué de toute notre prise de son à Kyoto, en passant de temple au métro. Voilà, ça faisait longtemps que je couvais ce solo, donc j'ai mis... dans ce solo, toutes mes influences. Donc, par exemple, il peut se diriger vers la pop. Je chante dans le solo. Mmh. Il est aussi influencé par Arve Henriksson, donc qui joue de la trompette divinement bien, un Norvégien. Donc, je prétends pas faire comme lui, mais en tout cas, il m'a beaucoup inspiré. Il y a aussi dans ce solo un saxophoniste, Colin Stetson, il n'est pas dans le solo, mais il m'a beaucoup influencé. Donc on a mis, il travaille en chantant dans le saxophone, il a un micro fixé sur la gorge, donc on a fait la même expérimentation, et je suis au balbutiement en fait de ce travail-là. Donc il y a un passage comme ça qui va vers cette influence. Et puis voilà, notre objectif c'était de faire un voyage musical et donc diffuser en multi-points, avoir des points de diffusion tout autour, et sans que ce soit quelque chose de formel, public artiste, spectacle, mais enrober le public du son, les faire voyager. J'aimerais bien arriver à leur fermer les yeux en se retrouvant dans une espèce de cocon musical.
Ah bah très bien. D'où l'association avec la créatrice sonore.
Oui.
C'est ça, ouais, ouais.
Et qui connaît maintenant extrêmement bien mon instrument.
Ah d'accord.
Voilà. Ouais. Elle commence à bien savoir le sonoriser. Il y a peu de gens qui arrivent à le sonoriser, puisque c'est assez spécial. Le son sort de toutes parts.
Ah oui, je me demandais justement pourquoi t'associer avec une créatrice sonore, c'est pour ça.
En fait, Céline et moi, on s'est rencontrés sur un projet de Every Sir White Desert Orchestra et elle a commencé à sonoriser le basson. Et puis, elle a travaillé aussi sur Equidoki. Elle a aussi travaillé sur l'album de Hugues Maillot qui s'appelle, le groupe s'appelle L'Arbre Rouge. Mm-hmm. Donc, ça fait un petit moment qu'on se côtoie. C'est devenu une amie et avec elle, on expérimente. On n'a aucune frontière sur l'instrument. Donc, c'est superbe d'avoir une partenaire de choc comme elle.
Et alors, en quoi le solo est... J'ai lu ça sur ton site. En quoi ton solo est extensible?
Alors, on a beaucoup réfléchi à différentes formes. L'objectif, c'était d'inviter dans ce solo un joueur de show. Donc c'est pour ça qu'il est extensible, ça peut correspondre à un duo, ça c'est pour le volet de cette année, inviter donc un joueur de show sur le solo, mais aussi travailler, donc on a créé avec Clément Petit, violoncelliste qui travaille avec des pédales, on a créé un duo qui était sous le nom de Lila Bazooka, mais finalement on s'est rendu indépendant et on s'appelle Bruno Lapin tous les deux. Voilà, donc c'est aussi les premiers pas de la création. Donc on était en réflexion par rapport à ça. Voilà, Lila Bazooka parce que invitation de joueurs de show et sûrement Clément Petit aussi qui viendra.
Et pourquoi ce nom?
C'est rigolo. Ben, Bazooka, ça vient d'une histoire assez débile. Il y a quelques années, c'était... plan un peu hors sec dans les aéroports et j'avais fait une sale blague en parlant du... On m'avait demandé ce que c'était, j'avais dit que c'était un bazooka et j'avais failli louper mon avion à cause de ça.
Ouais,
parce que les contrôleurs n'avaient pas trop aimé ma blague. Et Lila, Tissia Zapfel qui me faisait noter ça l'autre jour, qui s'occupe de nous, qui nous soutient dans mes projets. Mmh. J'ai toujours une fleur dans les cheveux. Aujourd'hui, non, mais voilà. Donc, elle me disait que ça me correspondait pas mal. Lila pour la fleur et Bazooka pour le basson.
On la salue, Laetitia. Ouais. alors, le Japon aussi, j'aimerais bien savoir que tu... J'aimerais bien que tu m'expliques ces rencontres musicales que tu fais au Japon.
C'est une musique incroyable. Donc, il y a le Ishiriki, qui est un instrument à hanche double, un petit peu... enfin, assez proche du hautbois. Il y a des musiciens de show, d'autres instruments, et donc ça c'était vraiment, j'avais un gros intérêt pour ces deux instruments qui se rapprochent énormément du basson finalement, vu que le show, on met en vibration de lames en métal dans du roseau, et le basson c'est le contraire, c'est deux lames de roseau qui passent dans un bocal qui est un tuyau en métal. Et par la suite, oui, il y avait aussi la flûte traditionnelle, le sakwashi, qui est extrêmement belle. Ce qui est intéressant, c'est que le sakwashi joue à des codes. Donc, il y a une forme d'improvisation dans un cadre. Et voilà, tout ce qui est musique traditionnelle, je parle encore de la musique hindoustanie. Qui est aussi l'improvisation dans un cadre, l'improvisation modale, ça se marie beaucoup, très bien avec mon instrument. Parce que jouer du Charlie Parker au basson, il n'y a aucun intérêt, à part autant prendre un sax que prendre un basson, ça sonne beaucoup moins bien au basson. Donc voilà, j'ai un intérêt pour les musiques traditionnelles, et notamment du musique traditionnelle du Japon.
Voilà. Ah, tu parles d'improvisation cadrée, justement j'avais cette question-là. Il s'agit d'improvisation, mais aussi tu parles de créer un répertoire. Donc, c'est un peu antinomique en fait, non?
Improviser et créer un répertoire?
Oui.
Est-ce que c'est antinomique?
Oui.
Mais en fait, quand tu crées un répertoire, tu peux créer des bases d'improvisation. Donc tu crées des squelettes, des structures, par exemple avec Ikuidoki, le trio qu'on a, harpe, basson, saxophone, clarinette et voix pour moi, on se crée des espaces de jeu finalement. On reprend, dernièrement on avait travaillé sur Debussy, les chansons de Bilitis, Donc on avait tordu le cou aux chansons de Bilitis pour pouvoir se permettre d'aller très très loin avec cette base, ce matériel musical. Donc non, ça, pour moi, c'est pas antinomique.
Très bien. dans Lila Bazooka, puis d'autres formations, tu chantes. Et j'aimerais savoir si tu as une formation et quelle place accordes-tu au chant. Est-ce que c'est un truc accessoire, un bonus, on va dire, un plus, ou c'est vraiment un de tes centres d'intérêt créatif?
Ça fait partie de mes centres d'intérêt créatif. En fait, la voix, je l'amène de peu à peu, de plus en plus, dans mon univers musical professionnel. J'espère que... Voilà, j'espère faire augmenter la dose de chant dans mes concerts. Là, on est en train de monter un groupe qui se dirige vers la musique pop avec Tatiana Paris, qui est guitariste et chanteuse. Oh, super, Séverine Morfin, qui joue de l'alto, et puis deux autres musiciennes. Ici, à Garcia, qui est batteuse cubaine, et Rachel Terrien, qui vient du Canada et qui est trompettiste. Et notre base va être vraiment tournée vers la musique pop. Et donc on va, en tout cas Tatiana et moi, on va chanter dans ce projet-là. Mmh. Et puis dans Lila Bazooka, je prends beaucoup de plaisir à chanter aussi.
Ouais. Et aussi la voix, elle est samplée, où il y a des boucles dans Lila Bazooka.
Dans Lila Bazooka, oui.
Ouais. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aujourd'hui à Sophie Bernadeau, qui est bassoniste. Alors, j'aimerais qu'on parle de Ikuidoki.
Ikuidoki.
Ikuidoki. Et bien, tout simplement, est-ce que tu peux nous présenter tes partenaires?
Alors, il y a Raphaël Rinaudot, qui est harpiste et qui travaille avec énormément de pédales d'effet. Et Hugues Maillot, clarinettiste et saxophoniste. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui vous a rapproché? Parce que c'est quand même un instrumentarium plutôt inédit, on va dire.
Oui, c'est rigolo parce que on a fait un petit concert vers chez... C'est une histoire banale, mais on a fait un petit concert vers chez mon compagnon, Hugues Maillot est mon compagnon. Et on a proposé, comme ça, au pied levé, à Raphaël de venir jouer avec nous. Et finalement, on s'est rendu compte que ça marchait super bien. Mais c'était vraiment un petit peu hasardeux, au final, on ne savait pas trop. Et ça fait maintenant, je pense, 6 ans qu'on travaille ensemble.
Non, mais t'es pas obligé.
Non, parce qu'on a eu un programme donc, sur Debussy, dont je parlais. Et là, on se dirige vers un nouveau programme qui s'appelle Suzanne, oui. Un jour. Ah, oui. Où on invite donc Sophia Jernberg à chanter avec nous. C'est une chanteuse suédoise qui a travaillé dans Fire Orchestra de Mats Gustafsson et puis avec Avrisseur New Song, je l'avais vu sur ça.
Ah voilà, oui, je me dis aussi, oui, ouais. D'accord. Ouais.
Et elle avait invité aussi, on avait fait un concert à Mölde en Norvège, et je l'ai rencontrée là-bas aussi. Et on s'est dirigé vers elle parce qu'on trouve qu'elle chante divinement bien, elle est entre improvisation, contemporain, très belle voix, elle peut faire des choses assez incroyables avec sa voix. Et on a décidé pour l'occasion de prendre un programme médiéval, baroque, renaissance, et faire un petit peu un travail de déstructuration comme on avait fait sur Debussy. Donc voilà, on s'est dirigé vers des compositeurs tels que John Dowland, Monteverdi, George Frideric Handel. On a pris pas mal d'anonymes aussi, et puis Marin Marais. Donc on s'est intéressé à des compositeurs européens, vu que voilà, il y a des Anglais, il y a aussi Rodrigo Martinez qui est espagnol, français et puis allemand. Donc avec ça, on va faire un travail de création en induisant nos influences. Par exemple, on va peut-être injecter du Meshuga dedans et tordre le cou, malheureusement, à eux, leur tordre le cou un petit peu.
Oui, alors, parce que là, tu parlais de... T'as pas bien expliqué, en fait, le rapport avec la musique française du début du XXe siècle.
Alors, il n'y a aucun rapport avec la musique française du début du XXe siècle, vu que là, l'ancien programme était sur Debussy-Ravel.
Oui, voilà. Ouais.
Et maintenant, on est parti sur un programme baroque-renaissance.
Oui, mais alors, ce ne sont pas des interprétations, c'est ça que j'aimerais que tu expliques, en fait, que ce soit pour le Debussy-Ravel ou pour la Renaissance, on dit, oui.
Ouais.
C'est pas des interprétations de John Dowland ou je sais pas, tu vois.
Non, on déchiffre. On observe si on peut, avec notre instrumentarium, se rapprocher du matériel. Mmh. Et quand on l'a infusé, digéré, on décide de le réarranger et afin de créer aussi une base d'improvisation. Et puis voilà, l'objectif, c'est de se le réapproprier. Mmh.
Vous avez créé un spectacle, alors c'est peut-être passé, je ne sais pas si vous le faites encore, à destination du jeune public.
Alors, on avait envie de se diriger vers un spectacle jeune public. On travaille avec Cécile Saint-Paul, qui est notre metteur en scène. On va jouer d'ailleurs le 7 septembre dans le cadre de Jazz à la Villette. Mm-hmm. Enfin, le 5, on joue avec Ikuidoki. Le 6, avec l'Arbre Rouge. Et le 7, avec Tapami Taka. Voilà. Là, c'est notre période Jazz à la Villette. Et voilà, on a décidé de reprendre quelques morceaux de notre répertoire donc autour de Debussy. On a injecté aussi des influences telles que la mienne qui était un peu rap, donc on a mis du beatbox et du scratch dedans. Et puis voilà, elle a créé des personnages qui caricaturent un petit peu nos propres personnalités, donc ça peut aller jusqu'à Jacques Tati pour Hugues Maillot, Raphaël qui est du coup une poupée punk Destroy, et puis moi un peu désinvolte qui s'en fout de tout.
Alors, on n'a pas forcément souvent l'opportunité de recevoir des musiciens qui font des spectacles à destination des enfants. Et justement, moi, la question que j'aimerais te poser, c'est y a-t-il, selon toi, une musique pour enfants ou,
non, pas du tout.
Voilà, ou peut-on proposer absolument n'importe quoi, n'importe quelle esthétique?
Exactement. En fait, les enfants sont totalement ouverts. Donc, je trouve ça fou qu'il y ait des personnes qui décident, donc des adultes, qui décident de ce qui est bon pour l'écoute. En fait, les enfants sont des êtres qui arrivent sur Terre et qui ont une porte et leur cœur totalement ouvert et une capacité à se relier à toute forme de musique. Par exemple, notre fille, Lune, a passé un temps fou à écouter à une période le groupe en fait de Hugo et Sylvain et Larry, enfin c'est le groupe de Sylvain qui s'appelle Spring Roll. Elle le voulait en boucle et on a un piano à la maison et elle passait son temps à essayer d'improviser, à faire son petit truc, sa petite tambouille. Donc non, pas du tout en fait, il faut laisser les enfants décider par eux-mêmes.
Merci. vous avez sorti un CD sur Eiler. Eiler,
oui. Ouais, Eiler Records. Eiler, ouais.
Eiler Records. J'aimerais savoir, déjà, est-ce que c'est le seul CD que vous avez fait?
Voilà, c'est notre premier CD.
Ouais. Et comment ça a été réalisé et quel rapport vous avez avec ce label?
Alors, Stéphane Berland, une personne douce et aimante qui nous a beaucoup soutenus pour réaliser cet album. Donc grâce à lui on a pu sortir le premier album. Et on a travaillé donc avec Céline Granger avec qui je travaille sur Léa Bazooka aussi. Là c'était l'année dernière à peu près à la même période. Et voilà, je crois que je peux pas vous en dire plus.
C'est très bien, mais on va écouter.
Oui.
Cats and Dogs. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, l'émission Les Oreilles Libres. Ça, c'est une curiosité, hein. C'est par curiosité que je te demande ça. Je voudrais savoir le titre, My Taylor is Reich. Je voudrais savoir si ça a un rapport avec Steve Reich.
En fait, on est très fort, le trio, pour faire des jeux de mots complètement débiles. Voilà, donc on est en plein dedans. Louis de Funès, il y a un film, je ne me rappelle plus quel film c'est, donc il essaie de parler anglais, et il dit « My Taylor is rich ».
Ah oui.
Voilà, donc on a repris ça, puis voilà, forcément, comme on tourne autour de Steve Reich sur ce morceau, c'est un clin d'œil à Steve Reich, on a fait ce magnifique jeu de mots, n'est-ce pas?
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aujourd'hui à Sophie Bernadeau. On vient d'écouter Iqui Doki, My Taylor is Reich. Dans votre dernière création, vous faites appel à la chanteuse suédoise, donc tu en as parlé, Sofia Jernberg. Ouais. Et j'aimerais savoir ce qui vous a poussé à introduire du chant dans votre musique.
La curiosité.
Mais je repose ma question. Est-ce que c'était le chant, est-ce que c'est les mots, enfin, ouais.
Ouais, c'est intéressant en fait de se proposer des challenges et proposer des répertoires totalement différents. Dans ce cas-là, il y a la période Renaissance baroque est quand même extrêmement touché par les ensembles vocaux. Mmh. Oui. Et voilà, la pureté de la voix, on avait envie de l'induire dans ce projet-là.
Pourquoi ce titre, Suzanne un jour ?
Alors, Suzanne un jour, c'est une chanson de la Renaissance, en fait, chanson Renaissance de John Doland.
Ah d'accord.
Voilà, on trouve ça assez beau.
Ouais. Alors, encore une curiosité personnelle, il y a un concert sur Arte.
Oui.
Disponible jusqu'à la fin de l'année, d'ailleurs, j'ai révisé, j'ai regardé ça hier. Tourné au festival de Meurs. Aux Pays-Bas.
Non, c'est en Allemagne. Ouais.
C'est en Allemagne.
Oui.
Oh, tu me casses un rêve, là. Et donc, c'est en Allemagne. Et après 20 minutes, vous êtes rejoint par une autre formation.
Oui. J'ai tellement de mal à dire leur nom.
Horstapfler.
Oui, voilà. Horstapfler. C'est avec... Louis Lorrain, Pierre Borel et deux magnifiques collaborateurs dont j'ai oublié les noms, un italien et un allemand. Mm-hmm. Et en fait, le Festival de Meurs nous a proposé de venir travailler avec eux sur réarrangement de musique d'étudiants. Et donc on a fait un travail pédagogique avec eux pendant 3 jours. Mm-hmm. Et ensuite, on a eu donc ce co-plateau avec les Horstapfler. Et Kudoki et Horstapfler.
Très beau concert. Hein. Super.
Merci.
Ah ouais, super bien. Je propose qu'on va parler de tes autres formations, si tu D'accord. veux. Donc, je propose qu'on écoute Arbre Rouge.
L'Arbre Rouge, de Hugues Maillot.
Voilà. On écoute Chant et Insouciance.
Chant d'insouciance.
Thank you.
Voilà, c'était Arbre Rouge, chant d'insouciance.
C'est ça.
Voilà. Eh bien, peux-tu nous parler de cette formation, par exemple?
Alors, donc c'est Hugues Maillot qui compose dans ce projet-là. C'est avec Théo Tchekaldi, Valentin Tchekaldi et Joachim Florent.
Ah.
Donc, trois cordes et deux soufflants. Hugues joue du saxophone et la clarinette, et moi, basson et voix. En fait, si j'ai bien compris ce vers quoi Hugues tendait, il a voulu créer un trait d'union entre la musique contemporaine. Et donc, on parle là de musique minimaliste, répétitive, Glass, Reich, et certaines de ses racines. Donc là, on parle notamment des musiques traditionnelles. Il s'est dirigé vers les pygmées, donc musique Centrafrique, Cameroun, et le blues. Donc c'est un trait d'union et une balade dans tous ces univers, en donnant des longues plages aussi d'improvisation à tous les solistes du quintet.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres groupes, d'autres formations dont tu aimerais parler ?
Alors, donc moi je vous ai déjà parlé de la réponse de la baleine à bosse avec Aline Pénito, qui est un projet de cœur. Et le jour où elle m'a dit pourquoi tu joues du basson, et là je lui ai dit je sais maintenant pourquoi je joue du basson. C'est juste une expérience inédite et extrêmement forte pour moi d'aller communiquer avec les baleines à bosse et travailler à essayer de communiquer avec elles sur une interface.
Tu pourrais expliquer comment ça se concrètement?
En fait, en gros, elle m'avait donné des enregistrements et j'ai dû décortiquer les différents registres de communication des baleines. J'en ai trouvé quatre, infrabasse, basse, médium et aigu. Donc quand on démonte l'instrument, on peut arriver à obtenir ces diverses formes de communication. Là, j'ai un gros pavé à étudier pour septembre, quand on part à la Réunion. Et en dehors de ça, on a une conférence avec Olivier Adam, qui est conférencier et chercheur au CNRS sur les baleines à bosse. Et donc, dans cette conférence, elle fait aussi une composition électroacoustique dans laquelle j'improvise.
Mais comment les baleines les entendent, la musique, ça?
Elle diffuse avec, elle fait de la diffusion hydrophonique sous l'eau. Voilà, elle prend le bateau, elle diffuse sous l'eau la musique. Donc ça, c'est pour moi, c'est mon projet de cœur. C'est le fil, la chose que j'aurais rêvé de faire, je suis en train de la faire en fait. Moi, j'adore les animaux, les mammifères marins. Donc c'est quelque chose d'extrêmement fort. C'est fabuleux. Merci la vie. Voilà, il y a ce projet-là. Il y a donc ce projet LA from Paris, qui est le groupe de rap expérimental. On travaille avec deux danseurs, donc Abdel Kader Diop, qui est acrobate hip-hop, et puis Feroz Saoulamid, qui est break dancer et qui travaille en tant qu'assistant à l'opéra en ce moment pour créer un opéra hip-hop basé sur le baroque d'ailleurs. Et voilà, donc c'est avec Marion Faure qui est DJ, danseuse contemporaine. Donc on a plein de casquettes l'une et l'autre. Et c'est un projet qui est tellement rempli de nos influences qu'il est difficilement classable. D'où sûrement la difficulté de le proposer, parce que c'est vrai que les programmations ont toujours besoin d'être rassurées et avoir un style donné, mais on fait ce qu'on aime, donc voilà, on va vers ce qu'on entend avec ce projet là. Il y a donc aussi mes chouchous de l'ensemble Arsonic, donc c'est Sylvain Rifflet et Joss Mignaniel qui portent ce projet avec Baptiste Germser et Cédric Châtelain. C'est un quintet qui vit depuis 7 ans et on a plusieurs programmes, dont un avec Didier et Tursari qui s'appelle Le Bal Perdu autour des musiques musettes. Et là, on est en train de créer, on vient de créer donc au théâtre de Quimper un projet autour de la musique électro house et expérimentale d'ailleurs, au Tech, Aphex Twin, etc. Et on a tous des pédales d'effet, et on va jouer d'ailleurs en décembre au Panonica, et on l'a créé aussi à la gare, dans le nouveau lieu tendance jazz à Corentin Caribou, là,
ah oui, d'accord,
qui est super
ouais.
cool. Ouais. Et voilà, donc c'est un peu la musique festive, danse, qui est, on va enregistrer en janvier. On y croit fort parce qu'on adore, voilà, on s'amuse beaucoup sur scène. Donc il y a ce quintet-là, que j'aime très fort. Et puis voilà, j'ai parlé aussi des le groupe Simone qui arrive tranquillement avec Tatiana Paris,
ah oui, ouais.
qui sera soutenue par Pierrette Devineau. Donc ça c'est notre projet. Il y a Bruno Lapin, donc avec Clément Petit, qui est orienté avec nos deux personnalités. On aime beaucoup rire tous les deux. Donc l'objectif, ça serait d'être entre le contemporain. Ça serait Philippe Catherine qui joue du contemporain avec un petit côté théâtral et improvisé et des pédales d'effet. Donc ça c'est Bruno Lapin. Quoi d'autre? Ben, je crois que je vous ai tout dit, je t'ai tout dit en fait, concernant les... Ah oui, il y a une nouvelle création aussi qui va se faire avec Pierrick Lefranc et Marie-Pascale Dubé, qui fait du chant inuit. Donc, et ça sera avec Joachim Florent. Donc ça, c'est une création qui va se faire là en octobre-novembre. Et puis voilà. À peu près tout.
Ben c'est pas mal, ouais. c'est pas mal. Oui, ma dernière question, c'était justement tes prochaines idées de création. Donc, est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres idées des...
Il y a toujours plein d'idées géniales. Je pense souvent à plein d'autres musiciens, dont François Tullier, que j'ai rencontré là récemment dans un festival, qui est tubiste. Magnifique tubiste, donc... on va juste rencontrer pour s'amuser. Et puis voilà, au fil des rencontres, on a de nouvelles idées à chaque fois. Mais là, j'ai déjà un gros pavé entre Lila Bazooka, que je veux vraiment développer, et puis Bruno Lapin. Et il y avait un autre truc aussi. Pour l'instant, on l'a mis en stand-by, mais on a quand même... On a quand même ça en tête, tous les trois. C'est avec Grégory Dargent, qui joue du oud, et guitariste, et Romain Baudouin, qui joue de la vielle à roue, en trio. Donc ça, c'est sur le feu, gentiment. On le laisse mijoter, et on va voir ce que ça dit.
Oh ben, on écoutera ça avec plaisir. On écoutera ça avec plaisir. Et on va te voir, donc, tu sais que nous sommes le 31 août.
Oui.
Oui, si. Je te le confirme.
Monstrueux, mais non.
si, je t'assure. On est le 31 août. Et donc, on va pouvoir te voir au moins 3 fois dans la semaine qui vient.
Oui, c'est ça.
Ouais. Ouais. Tu peux nous redire.
Ah, je vais vous redire, ouais. Je te redis. Donc, en fait, on joue le 5 septembre avec Ikuidoki, dans le cadre de Jazz à la Villette. Le 6 avec L'Arbre Rouge, dans le cadre de Jazz à la Villette. Et le 7 avec Tapamitaka, dans la Villette.
Et peut-être après, est-ce que tu as des...
Ah oui, alors après, je pars en tournée du 8 au 22 avec les Baleines à Bosse. Et ensuite, le prochain concert se fera dans le cadre de Nuit Blanche. Et je ferai un solo encadré... par Elodie Pasquier, qui fera son solo aussi, et une autre personne mystère.
Ah.
Voilà, et donc notre création avec Ikuidoki de Suzanne un jour se fera à Jazz d'Or le 12 novembre. Et avant, au théâtre de Vendre, le 15 novembre.
Génial. Super. Eh bien, merci beaucoup, Sophie.
Merci à toi.
Merci. Super. On se quitte avec Debussy l'Africain. Que c'est que ça, Debussy?
Oh, c'était encore une vieille blague assez pourrie, d'ailleurs. Il y avait une histoire de Mozart... Mozart, l'Égyptien, donc on s'est amusé avec ça. Il y a une petite base africaine, donc parfois on manque d'inspiration pour les noms de morceaux.
Mais vous ne manquez pas d'inspiration pour les morceaux.
C'est gentil.
À bientôt, merci beaucoup.
Merci.
Salut. Thank you.
Thank you.